signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Ils utilisaient des expressions extrêmes, des mots forts, des tempêtes dont elle avait horreur, des mots qui bousculaient la vie, sa vie qui paraissait soudain molle et informe. Jamais les mots ne s'étaient trouvés à une telle distance de ce qu'ils étaient censés évoquer, décrire ou expliquer. Jamais ils n'avaient été aussi loin et aussi provocateurs. Je tire ces phrases du premier roman publié en français de la romancière israélienne Michal Ben Naftali, L'énigme Elsa Weiss, sorti il y a quelque temps déjà en France, et c'est des mots qui font référence à un scandale des années 50 qui constitue un épisode du roman, mais qui pourrait bien sûr s'appliquer à n'importe lequel des sujets qui animent le débat public aujourd'hui. Parfois pourtant, moins souvent qu'on ne le dit, mais parfois, il arrive que face à cet assaut de violence qui coupe les mots de la réalité qu'ils veulent décrire, la littérature nous propose soudain autre chose, un pas de côté, une façon différente d'appréhender un monde que l'on croit connaître à travers les clichés des médias et des réseaux. Et c'est ce qu'offrent les deux romans publiés par Michal Ben Naftali en français, L'énigme Elsa Weiss dont je viens de parler, et le tout récent et mystérieux Ne vois-tu pas que je brûle, qui sort en ce moment. Michal Ben Naftali, bonjour.
Bonjour. Marc Weizmann, merci pour m'avoir invité.
De rien. Vous êtes né à Tel Aviv en 63. Vous avez étudié l'histoire et la philosophie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous enseignez la littérature et le creative writing à l'Université de Tel Aviv et à l'Université Ben Gurion. Vous éditez aussi, vous êtes éditrice de littérature française en particulier en Israël, pour deux maisons successives, Kibbutz HaMeouchad et Afik Publishing. Vous avez traduit beaucoup d'auteurs français en hébreu, Derrida, Breton, Marina Tsvetaeva, qui est russe mais qui a écrit un livre en français, Blanchot, Kristeva, Annie Ernaux, Didier Ribon, etc. L'énigme Elsa Weiss a reçu en 2016 le prix Sapir, qui est le Goncourt israélien, et le prix Viso 2019 en Italie. Et vous publiez en ce moment donc « Ne vois-tu pas que je brûle ?» qui est votre deuxième roman publié en français et que j'ai lu, je dois dire, avec une certaine fascination, parce que c'est vraiment des livres, les deux sont deux livres étranges. Ils m'ont fait penser, vous allez peut-être rougir sous le compliment, mais ils ressemblent un peu, toute proportion gardée, à ce que Kafka pourrait écrire s'il était, s'il vivait aujourd'hui et s'il décrivait quelque chose d'une forme de spiritualité. Je sais que vous citez plusieurs écrivains dans vos livres, dont Duras, mais moi j'ai surtout pensé à Kafka, des récits comme Le Terrier, où le refus, la révolte des personnages se fait à travers des toutes petites choses, des tout petits détails.
Oui, vous voulez que je...
Oui, si vous voulez.
Non, c'est intéressant que vous avez commencé par cela, parce que je crois que, en général, je m'occupe et aux femmes, à l'expérience des femmes. Et c'est vrai que les deux livres, mais en particulier, et le deuxième, était nourri par l'écriture de Virginia Woolf, de Jean Rhys, de Judith Hendel, qui est une écrivaine israélienne extraordinaire, et d'Ali Rabikovitch, qui est une poétesse qui a donné le titre en hébreu de cette... Et c'est vrai que pour moi, le lien entre l'écriture et la faiblesse, le lien entre l'écriture et le désœuvrement, c'est une expression blanchotienne, et la littérature, l'improductivité, oui, c'est des liens créés par Blanchot, par Kafka, par Jacques Derrida, etc., etc. Alors, défaire la langue, je ne sais pas, paternelle, la loi paternelle, c'est... Alors, mais je ne suis jamais comparée avec... Non, ce n'est pas mes sources, d'ailleurs. Ce n'est pas les sources intimes qui me nourrissent. Oui.
D'accord. Vous citez au début du livre, je parlais des mots et de la coupure entre les mots et la réalité. Vous parlez au début du livre, vous citez Ernesto Sabato, qui aurait conseillé à Borges de ne lire les journaux qu'une fois l'an, ou une fois par an, ou une fois par siècle, quand il se produit vraiment quelque chose d'important. Par exemple, Monsieur Colomb vient de découvrir l'Amérique. Et effectivement, c'est vous vivez dans une région, dans un pays, dans une région qui est saturée d'informations, particulièrement en ce moment, mais où les mots sont totalement à la fois plaqué sur la réalité, déconnecté de la réalité. Oui. Et il y a quelque chose comme ça, il y a désir d'échapper à ça, non, pour retrouver une forme de vérité.
Oui, je crois que c'est assez particulier parce que, ou peut-être c'est banal, peut-être c'est comme ça dans tout le monde, mais on vit un moment maintenant qu'on nous dit, c'est vrai, que c'est un désastre sans précédent, et c'est dans l'ampleur et l'intensité qui n'a jamais ça soit arrivé en Israël depuis sa fondation, et que c'est un tournant, que c'est une crise, et on utilise la langue de la crise, et c'est la fin d'un chapitre, le commencement d'un autre chapitre, etc., etc., on dit ça, mais il me semble que quelquefois c'est seulement le prénom et les dates qui changent. Et ça continue à être médiatisé par les mêmes mots, le même lexique, le même cycle infernal de terminologie. Mm-hmm. Alors, ça pose comme une question. Ça, est-ce qu'il y a vraiment de nouvelles réflexions, de nouvelles pensées qui puissent nourrir la conversation ? Mm-hmm. C'est une question ouverte pour moi.
Oui. Alors, on va commencer par le nouveau livre, Ne vois-tu pas que je brûle. Le titre français, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne le savais pas, mais le titre français est emprunté à Goethe. La phrase, le titre en hébreu, c'est une robe de feu, c'est ça ?
Mm-hmm. Oui, mais c'est aussi très riche en français parce que c'est tiré d'une citation qui va d'un poème écrit par Dalia Rabikovitch, qui est l'une des poétesses les plus importantes en Israël. Elle est morte en 2005. Elle a écrit un poème qui s'appelle Le vêtement. C'est comme une conversation entre des personnages. Apparemment, une fille et une mère. Et la mère dit, mais le vêtement, et ça brûle, le vêtement. Et la fille dit, mais ce n'est pas le vêtement, c'est moi qui brûle. Mm-hmm. Alors, c'est cette conversation très, très délicate entre la couverture, le vêtement, peut-être la couverture symbolique, les corps qui est là, qui brûle.
Oui, vous avez dit quelque part que en hébreu, la racine du mot vêtement,
beged,
est la même que celle qui désigne la trahison, c'est
la
ça.
La trahison, c'est beged begida, oui,
voilà,
c'est ça.
Donc à la fois on couvre et à la fois on trahit, comme le fait le langage si souvent. Entre autres choses, et vos livres sont sous-tendus par toute une réflexion là-dessus, sur la question du langage par rapport à ce qui s'est passé dans les deux livres.
Dans les deux livres, oui.
Donc il est largement question de sorcellerie, et c'est pour ça aussi que le livre s'appelle comme ça. Ouais, il est question de langage, de corps brûlé et de sorcellerie. La narratrice Anna, dont il dit que le prénom est une erreur administrative, enfin, l'orthographe du prénom est une erreur administrative qui se transforme en valeur symbolique, parce que Anna avec un seul N en hébreu, ça a un sens.
Et c'est Anna, c'est Aleph, Nun, Aleph, ça veut dire... pardon, ou je ne sais pas comment dire, je ne trouve pas le mot exact, mais Anna.
Alors, c'est un pardon.
Oui, c'est un oui. Il faut que je discute avec Rosie Pinchasel, elle va me dire.
Alors, Anna fait donc une recherche sur une sorcière. Il s'appelle Emmanuel Pinson. Mm-hmm. Elle travaille, c'est une apprentie historienne. Elle fait une thèse en histoire sur la sorcellerie, des centaines de milliers de condamnés au bûcher entre 1480 et 1789. Mais c'est une étude particulière puisqu'elle ne veut pas s'intéresser aux archives réelles qui n'existent pas ou qui existent mais qui ne retranscrivent pas exactement qui était le personnage sur lequel elle veut écrire, et donc elle veut tout inventer. Elle veut faire sa thèse, elle veut la rédiger comme une sorte de monologue à la première personne dans la bouche imaginer ce que pourrait dire la sorcière, c'est ça.
Oui, c'est ça. Elle commence par étudier l'histoire avec un grand H. Oui, et c'est peut-être à peu près comme Elsa Weiss dans l'autre livre, parce qu'il y a l'histoire qui, c'est quand même une histoire très, très importante. C'est l'Holocauste, c'est l'affaire Kastner, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui va, je sais pas, on écarte la vie historique dans ce sens majeur. Alors oui, ça devient pour elle une, je sais pas comment dire, peut-être atelier de l'écriture, pour inventer, pour imaginer.
Contre oui. son professeur. Effectivement, oui. il y a un lien avec le livre précédent, l'énigme Elsa Weiss, où qui raconte l'histoire de, qui est racontée par une ancienne élève d'une professeure qui s'appelle Elsa Weiss, dont on découvre qu'elle a été en fait déportée, qu'elle a connu quelque chose de la Shoah, et la narratrice décide d'inventer son histoire. Et il y a un passage où elle parle au milieu du livre, où elle dit « Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, est-ce la peine de le dire ?» Même s'il existe quelque part ce que l'on nomme la simple histoire, dès l'instant où elle a choisi de ne pas la raconter, ce n'est plus l'histoire de quelqu'un et elle est loin d'être simple. Un abîme nous sépare, je ne peux pas le franchir. Il y a toute une réflexion sur la fameuse question de la représentation de la Shoah. Mais quelque part, c'est le point commun entre les deux livres. On va essayer de mettre des mots sur une histoire qu'on ne peut pas connaître et qu'il ne faut peut-être pas connaître.
Oui, oui, je crois que, bon, avec Elsa Weiss, il y a toujours cette question qui, maintenant, ce n'est peut-être pas assez pertinente parce que nous vivons, il y a le témoin qui meurt. Mais à cette époque-là, je crois que la question des témoins du témoin, qui s'est posée par exemple par Paul Celan, on ne témoigne pas pour le témoin, etc., etc., tout ce discours poétique, esthétique, par. Claude Lanzmann, et par Jacques Derrida, par Jean-François Lyotard, etc., etc., c'était comme interdit. C'est une frontière qu'on ne surmonte pas, et du point de vue cognitif aussi, et du point de vue moral. On ne donne pas, parce que c'est la déhumanisation la deuxième fois, leur prendre leur voix. Mais maintenant, il n'y a pas de question, parce que maintenant, il faut le faire, parce que sinon, on n'a pas de histoire. Mais je crois que dans les deux histoires, mais différemment, parce que ce sont, pour moi, je vais prendre la point commune, mais à la fois, j'ai voulu aller vers la pauvreté des mots. Avec Elsa Weiss, c'est une témoine qui est muette. Il n'y a que le mutisme. Et elle n'était pas allée, je ne sais pas, Yad Vashem. Elle n'a rien laissé derrière elle. Alors, est-ce que moi, je vais utiliser les archives, etc., etc., parler avec les gens, reconstituer une histoire qui sera majeure? Ou est-ce que je vais me discipliner et aller vers son propre mutisme pour comprendre ce qui m'est important de comprendre? C'est plutôt le nœud dépressif de son existence, ou le nœud mélancolique de son existence, qui ne sont pas les mêmes. La dépression et la mélancolie, c'est tout à fait une autre chose, mais c'est ça que je me suis allée à rencontrer, dans les deux cas, mais différemment. Cas. Oui.
Sur la sorcellerie, on va y revenir, c'est sur la sorcière. Vous citez effectivement Dalia Ravikovitch, la Torah sauve du feu, mais elle ne me sauve pas. Duras aussi, qu'est-ce que j'ignore de moi-même à ce point et qu'elle me met en demeure de connaître? C'est-à-dire que la personne inconnue vous met en demeure de connaître quelque chose de vous-même. Il y a une sorte d'apprentissage de soi à travers la recherche de quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre à travers son silence.
Oui, oui, je veux dire la phrase de Dalia Ravikovitch en hébreu. Oui, quand même, c'est « Sifrei Torah et Matsilima Esh Otilo ». Oui, c'est...
The flames, they followed Joan of Arc. She came riding through the dark. No moon to keep her armor bright. No man to get her through this dark and smoky night. She said, I'm tired of war. I want the kind of work I had before. a wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite. Then I
Ne vois-tu pas que je brûle, donc, raconte l'histoire de Anna et de sa thèse sur une sorcière du XVIIe siècle et sa rencontre, ça va être l'histoire du livre, avec une certaine Yora Aharonov et l'histoire de leur relation. Yora Aharonov est quelqu'un d'assez particulier. Elle est plus âgée qu'elle, déjà de 30 ans. Mm-hmm. Elle est très solitaire. Elle est aussi atteinte d'un glaucome qui la rend aveugle. Et Anna va venir lui faire de la lecture. Ils vont lire ensemble Duras, Borges, L'homme sans qualité, Wolf, Proust aussi. Oui, il y a cette phrase du personnage Yora Aharonov. Je supporte pas ce petit. Comment c'est? Je supporte pas ce petit.
Oui.
Ce petit gamin avec ses états d'âme. Et l'histoire va. Le livre va raconter leur relation est assez complexe et mystérieuse, qui va entraîner une rupture avec l'homme avec qui vit Anna, qui lui dit « Pourquoi tu lui donnes cet ascendant sur toi? Qu'a-t-elle donc fait dans la vie pour que son discours ait un pouvoir aussi total qui te fragilise? Elle t'écrase, c'est une femme vide. » Et de fait, leur relation est basée sur la nuit et la négativité. À mesure qu'elle, comme il devient aveugle, il dit dans le fuseau horaire où elle vivait, il faisait nuit au moins deux fois par jour. Et elle dit qu'elle a de la nuit dans la tête quand elle se lève. Elle agit comme une somnambule, ce personnage de Yora Aharonov. Et elle va peu à peu fasciner le personnage. Et toutes les deux vont vivre une sorte d'histoire d'amour à peu près. Mais basée sur une sorte de négativité étrange, de refus du monde en fait un peu.
Oui, je crois que... Et ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'était de décrire un personnage ou des personnages, qui s'écartent, qui s'éloignent de la vie de la police, de la vie de la cité, et son renoncement, son désœuvrement. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas en vérité ou pas nécessairement en sa faveur, ce n'est pas nécessairement par choix. S'il y a un choix, mais ce n'est pas nécessairement par choix ou par intentionnalité, mais c'est quelque chose qui se joue que la personne, le personnage évite. Alors, peut-être avec l'énigme Elsa Weiss, c'est raisonnable parce qu'il y avait quand même l'Holocauste, etc. Il y avait une histoire et c'était aussi la culpabilité d'une rescapée, etc. Mais ici, c'est comme il n'y a pas de bonnes raisons. Pourquoi? Alors, Yora, bon, il y a une histoire quand même, elle a échoué son mariage, etc. Mais avec Anna, qui écrit cette histoire rétrospectivement, alors pourquoi? Alors, c'est les questions que j'ai voulu vraiment plonger dans ce pourquoi? Pourquoi laisser ça comme ça? Pourquoi Anna pas? Parce qu'elle est au passage, justement. C'est le commencement, elle a un petit ami, elle commence ses études, etc. Mais pourquoi elle est assez fragilisée? Par cette relation, pourquoi? Ça veut dire quoi?
Oui, c'est une des choses étranges dans le livre, c'est-à-dire que à un moment donné, il y aura dit à Anna, donc à l'apprentie historienne, elle lui explique à elle-même pourquoi elle a voulu imaginer la sorcière plutôt que de faire des recherches, et elle lui dit, tu as voulu étudier la vie à l'envers, n'est-ce pas? Oui, en quelque sorte, la force de dire non. Je veux comprendre la force de dire non.
Oui. Parce que je crois que Yora Aharonov, c'est pas parce qu'elle est méchante, je crois que tout à fait au contraire. Mais il y a que, je crois qu'elle sent que Anna est très très fragilisée. Qu'il y a quelque chose en elle qui ne peut pas aller au monde, au soi-disant la vie qui est digne de son nom, comme on dit aussi en hébreu, la vie familiale, la vie normative, etc. Il y a quelque chose qui hésite là-bas. Elle est comme elle est, je dirais, avec le j'utilise la terminologie un peu talmudique, elle est dans le prosdor, dans le couloir au passage. Et elle n'arrive pas, elle sait, dans le seuil de ce qu'on appelle la tracline, autrement dit, du salon. On peut entrer dans le salon et c'est juste, tout le monde fait ça, ou presque tout le monde fait ça, mais il y a une hésitation. Alors je crois que ce que Lior a fait, c'est comme renforcer sa faiblesse. Alors elle crée ensemble, c'est une collaboration en régression.
Une collaboration vers la régression. C'est quelque chose d'étrange dans le livre. C'est-à-dire que tous les éléments du féminisme sont dans le livre. La mythologie de la sorcière, qui est aujourd'hui très présent dans le militantisme féministe. C'est d'ailleurs une des choses que critique son directeur, le directeur de thèse d'Anna, qui lui dit, il lui critique la direction féministe du projet en disant que c'est un anachronisme. Elle plaque sur une situation du XVIIe siècle. Des problématiques d'aujourd'hui, ce que Anna revendique précisément. Elle revendique une sorte d'histoire du présent. Elle dit avoir besoin de s'appuyer sur la poésie et la prose contemporaine, de soumettre les documents historiques à la boyeuse de ses sentiments actuels. Donc elle revendique complètement de s'intéresser à l'histoire au nom de ses intérêts présents. D'ailleurs, elle dit à son prof, je vois des sorcières partout. Donc on pourrait dire, finalement, elle est dans la filiation de Mona Chollet, quelque chose comme ça, dans sa relation avec Liora Aronoff et dans son écriture, ce présentisme devient bizarrement un refus de l'histoire. On a l'impression. C'est l'ensemble de l'histoire qui est refusée d'une certaine façon. Elle s'exclut de la marche du monde.
Oui, j'essaierai de dire des choses. Je crois que pour commencer, à propos de l'actualité féministe, etc., je crois que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que les hommes ont fait au fond et aux femmes. Ce n'est pas là la question qui est au cœur de ma réflexion. Ce qui m'importe, c'est ce que les femmes font à elles-mêmes et entre elles-mêmes. Alors, oui, bien sûr, il y a une contextualisation comme ça, il y a la patriarchie, mais ce n'est pas ça. C'est plutôt le monde intérieur de ces femmes, et la manière dans laquelle, c'était attraction, c'est séduction de régresser. C'est l'amour peut-être mélancolique entre deux femmes. Ça veut dire ne pas pouvoir créer de frontières entre elles, parce que l'une avale l'autre, l'une dévore l'autre, l'une incorpore l'autre. Et l'une est appelée par l'autre.
Mais c'est ce qui se passe aussi dans l'énigme Elsa Weiss, surtout au début, puisque Elsa Weiss est prof au début du livre, et la narratrice, le livre commence par une espèce de nous flaubertien, elle est élève, et donc elle parle au nom de la classe, nous étions dans sa classe, et tout ça. Et ce qu'elle décrit, c'est effectivement, pas exactement une dévoration, mais une tyrannie. C'est-à-dire que le personnage d'Elsa Weiss est un prof totalement humiliant, totalitaire. Éventuellement, l'humiliation était un cérémonial. L'accusé se tenait debout, blâmé pour son échec, subissant une torture verbale. Et on développera plus tard, vous développerez plus tard dans le livre, l'idée que tous les élèves collaborent cette dynamique de l'humiliation et de la tyrannie exercée par Elsa Weiss, qui finira par se suicider, puisque le roman ouvre là-dessus. Donc il y a quelque chose de très cruel.
Je dirais que pour la relation entre la narratrice devenue l'écrivain de cette histoire avec Elsa Weiss et la prof, ce n'est pas la même relation parce qu'il n'y a pas une liaison érotique, il n'y a que des distances. Mais alors ce n'est pas exactement une incorporation parce qu'elle ne peut pas le comprendre, elle ne peut pas la totaliser. Alors il y a des limites quand même, il y a sa distance. Alors qu'ici, c'est plus les frontières ne sont pas précises. Mais j'ai voulu dire encore une fois quelque chose, mais j'ai oublié.
Mais la cruauté est présente dans les deux cas.
Oui, mais est-ce que vous croyez que il y a cette cruauté? Je ne sais pas. J'ai voulu dire quelque chose sur la collaboration, parce que c'est ça, ça fait partie de la complexité de la condition humaine. on peut dire les collabos, etc., etc., et c'est pas à peu près des bourreaux, et on peut dire et utiliser des noms très, très durs pour décrire des personnes, mais la collaboration, le fait d'avoir créé ou négocié ennemis et amis, etc., etc., ça, c'est aussi important, ça fait partie de... Alors, j'ai essayé aussi de déconstruire les frontières conceptuelles.
L'idée de collaboration, c'est l'idée qu'on ne peut pas s'abstraire du monde, en fait.
On ne peut pas
être à l'extérieur.
Oui, ça c'est la déconstruction pour moi. C'est toujours à l'intérieur, c'est toujours être impliqué dans quelque chose. Parce que si tu n'es pas impliqué, alors pourquoi dire de, bon, C'est
dans Elsa Weiss, il y a cette réflexion. La réalité était plus intéressante que le jugement sur la réalité. Ceux qui prétendaient maîtriser le chaos, lui enlever sa part d'arbitraire et croire y mettre de l'ordre, ne pouvaient agir que de l'extérieur.
Oui.
Donc il n'y a pas de... Et elle se dit elle-même, elle se définit elle-même comme une victime impure.
Oui. Je crois que c'est ça, c'est la notion de pur et d'impur, et la capacité de regarder la réalité aux yeux et renoncer du purisme, parce qu'il n'y a pas de purisme, nous sommes personne.
De purisme, donc, de pureté.
Oui, de pureté au sens de... personne ne se trouve dans la justesse. Ce n'est pas quelque chose qui peut... Alors, il y a toute cette discussion qui va à cette direction de purisme. Je le trouve très... Je ne trouve là-bas ni de pensée, ni de critique. Je dirais, c'est plutôt ce que Melanie Klein a désigné, a décrit comme une position schizoparanoïaque. Il y a la démonisation d'un côté et de idéalisation, de auto-idéalisation de l'autre côté. Ça ne pose pas comme une pensée.
C'est ce qu'on voit partout aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Il faut être pur, il faut être du bon côté et il faut tracer une frontière étanche entre les bons et les méchants.
Oui.
Ça rend les choses très complexes parce que cette idée qu'il n'y a pas de pureté et qu'il n'y a pas de, il n'y a pas finalement de bonne position. Vous dites il y a dans Elsa Weiss, il y a à un moment donné cette réflexion. Ça se passe en Hongrie avant la déportation et tout le monde emploie les mots SS, capot, nazi et il y a cette réflexion, on les prononçait à tort et à travers jusqu'à l'usure, en les appliquant sans distinction. On disait nazi non pas pour appeler les choses par leur nom, mais parce qu'on ne savait pas appeler par leur nom de nombreuses choses.
Oui, ce que je viens de dire, c'est ça.
Et alors dans Ne vois-tu pas que je brûle, il y a cette idée que Dieu, finalement, Anna est intéressée par Descartes et cite Descartes, et elle cite en particulier cette citation, au lieu de m'enseigner à argumenter, collecter, accumuler, il me demandait enfin ça c'est Anna qui parle, il me demandait de me révolter et d'oublier, de me défaire de mes vieux oripeaux. Et elle cite Descartes disant, je supposerai donc non pas que Dieu qui est très bon et qui est la souveraine source de vérité, mais qu'un mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, a employé toute son industrie à me tromper. Et cette idée d'impureté, cette idée qu'on est embarqué de toute façon, qu'on n'a pas le choix, on est quelque part trompé dès qu'on on n'a pas le choix de la position dans laquelle on se trouve au départ. Il y a quelque chose de sombre dans cette idée d'une idée métaphysique très forte.
Oui. Mais pour moi, c'était plutôt regarder Descartes et comme le philosophe, pas de méthode, et pas de cogito, mais plutôt d'un philosophe qui rêve, qui hallucine. Que c'est à propos, et André Breton, par exemple, dans son premier manifeste 24, quand il dit si on avait le philosophe qui dorme, alors c'était plus c'est dans la direction, dans la lignée que vous avez signée de Kafka peut-être, et de Blanchot et Derrida, ça veut dire d'homme et en robe de nuit et qui songe, qui hallucine, que alors ce n'est pas, je crois que c'est pour cela que j'ai mis cette citation.
On est égaré, quoi.
On
au sens de naître et c'est de la condition première.
I stepped in
to an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You wish to conquer pain, you must learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your gold. The cripple here that you clothe and feed is neither starved or cold. He does not ask for your company, not at the center of the world.
Alors, cette citation de Descartes, Michal Ben Naftali, dans Ne vois-tu pas que je brûle, cette idée d'un mauvais génie qui emploie toute son industrie à tromper, elle a des conséquences dans le livre, au moins dans la réflexion des personnages, puisque Leonardi à un moment donné qu'il est impossible de séparer la conscience et le malin génie, la renaissance et la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que les deux vont ensemble.
Oui, oui.
Les lumières et le contraire des lumières sont inséparables.
C'est toujours la contamination qui m'intéresse, c'est ça. J'ai voulu quand même dire quelque chose sur ce que j'ai oublié.
Oui.
Je veux dire que il y a dans ce que vous avez décrit écarte au monde par relation au monde, cette étrangeté et cette négation, c'est quand même une manière de dire non.
Oui.
Alors il y a une révolte là-bas.
Une révolte.
Il y a une résistance.
Oui, oui. Mais c'est une résistance étrange parce que c'est une résistance qui s'abstrait presque de toute participation au monde, en fait. C'est presque, quand on vous lit en tout cas, c'est l'impression que ça donne.
Oui, mais il y a quand même, comme vous l'avez cité, des choses que l'artiste dit sur, par exemple, le lexique israélien et par rapport aux témoins impurs, etc. Alors je crois qu'il y a les deux. C'est vrai que cette résistance ou cette révolte, ce n'est pas quelque chose qui dure. C'est éclaté et ça tente presque immédiatement. Il n'y a pas la durée. Alors, ce n'est pas peut-être comme le personnage de Paria chez Hannah Arendt qui observe, qui critique et qui juge. Mais il y a quand même, c'est pas une relation, un jeu entre la lucidité de cœur, de regarder quelque chose, d'être impliqué dans les choses. Et ce que vous avez décrit comme cruauté, je comprends cela, oui.
Mais alors, c'est dans le livre, il y a des dialogues sur la révolte et sur la révolte politique, puisque ça se passe au début des années 80 et donc au début de la fin des années 80 et au début de l'intifada, donc la première. Oui. Et il y a un dialogue à un moment donné entre les deux personnages, puisque on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il y a. Elle porte une pancarte, vous direz jamais ce qu'il y a dessus, et elle dit simplement tu n'es pas d'accord à Anna, et Anna lui répond je suis d'accord. D'accord avec chaque mot. Il lui demande pourquoi n'es-tu pas venu nous rejoindre. Des tas de choses se passent sous tes yeux. Il y a une intifada autour de nous, tu es au courant. Dans quoi est-ce que tu es plongé? Tu es plongé dans tes livres. Et elle lui répond, peu importe dans quoi je suis plongé, ce n'est pas ton affaire. En ce moment, je ne pense rien. Je suis vide de toute pensée. Je ne crois pas au combat où je ne paie pas le prix fort. Mm-hmm. Participer pour la forme à un petit rituel et rentrer tranquillement à la maison, ça n'a pas de sens.
Oui. Oui, je crois que ça, il y a là une tension intergénérationnelle. Ce Léo, comme vous avez dit, il a 56 ans. Et Anna est une trentaine d'années, sa cadette. Alors Liora est née, c'est pas disons dans les années 40, avec la fondation de l'État d'Israël. Elle vient de Haïfa et elle vit à Jérusalem. Il y a quelque chose dans le milieu plutôt intellectuel à Jérusalem qui est plus politisé, aussi à Haïfa. Et par rapport à Tel Aviv, par exemple, si je songe de mes parents, c'est un milieu, je ne parle pas comme sociologue, quoi, alors je ne veux pas généraliser, etc. Mais je voudrais dire que, et, par exemple, mes parents, le grand-parent, ils sont venus de Pologne et à 34 pour découvrir après la guerre que toute la famille était tuée. Alors, ils ont vécu très proche avec le deuil, le chagrin, la douleur, tout ça. Et je crois qu'ils ont vraiment voulu vivre. C'était des bons vivants. Mmh. Alors, ils ont voyagé, ils écoutaient de la musique, etc., etc. C'était ça, avec un tel aveuglement, peut-être un déni de ce qui se passe. Alors, je ne dirais pas qu'ils ont été complètement apolitiques, mais il y avait une dimension de dépolitisation, d'aveuglement et de déni par rapport à la question palestinienne, etc. C'est un milieu télévivien de... Je ne dis pas qu'il vit dans une boule, mais c'est plutôt... c'est des personnes libérales, bien sûr, pour la liberté de parole, pour le droit de l'homme, il n'y a pas de question, mais il y a un aveuglement là-dedans. Alors je crois qu'Anna a grandi dans ce milieu, plutôt, et là, pour elle, cette discussion, cet débat politique, c'est aussi une couverture. C'est aussi une couverture symbolique qui va cacher quelque chose qui est plus important pour elle. Et ça, c'est le monde intérieur, et la relation, et l'intimité, etc. etc.
Est-ce que ça peut être toujours vrai aujourd'hui, dans la situation actuelle?
Et je crois que oui. Je crois que les gens ont été, c'est pas le milieu que j'habite, ont été vraiment choqués, paralysés, et fragilisés, et déstabilisés, mais dans une manière très importante parce qu'ils ont été aveugles. Ils n'ont pas voulu voir la rage. Et même dans l'année, parce qu'il y avait déjà une guerre devant la guerre. Il y avait une guerre civile au commencement. Et une fois que cette guerre termine, il y aura encore une guerre civile. Il y a un déchirure entre aussi le gouvernement Israël et la société civile. Alors ça, mais dans toutes les protestations, la plupart des protestations, la question palestinienne était en marge du débat. Je crois que maintenant, c'est évident que c'est la chose la plus importante qu'il faut résoudre.
Oui. C'est pas forcément la plus facile à résoudre, d'ailleurs.
Oui, je suis d'accord.
Alors, pour revenir au livre, je voudrais finir sur la question du féminisme. Il y a à la fin du livre une réflexion d'Anna sur le féminisme, où elle dit: le passage de la honte d'une culture tribale à la culpabilité d'une culture judéo-chrétienne est considéré comme le signe d'un développement de la civilisation. Elle fait la différence entre les deux. La honte est un sentiment insupportable. La culpabilité est incluse dans un savoir intérieur, la conscience d'avoir fait le mal. Et il y a tout un développement sur la question de la culpabilité chez les femmes, dans toute relation avec autrui, avec nous comme les descendants de la Shoah, évidemment, mais aussi comme la deuxième et troisième génération de la révolution féministe. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce que vous parlez d'une culpabilité genrée?
Oui, pour la Shoah, c'est une autre chose. J'hésite parce que, oui, je suis ici à Paris et il y a la question juive. Ce n'est pas la question israélienne, ce n'est pas la même chose pour moi. Je crois que c'est irréductible. Et je crois que devenir israélienne, c'est quelque chose qui va avec la souveraineté, avec le pouvoir, avec la violence aussi. C'est quelque chose que, oui, bien sûr. Alors, mais quand même, c'est très, très bizarre, peut-être. C'est très paradoxal parce que dès qu'il y avait la guerre, par exemple, je me suis trouvée dans mes rêves. Et à l'hôtel Lucessia, alors je ne sais pas pourquoi, oui, et après la douleur de Marguerite Duras, etc., etc., je me suis trouvée là-bas, et je fuis, alors il y a cet espace de ce que Yolanda Gempel, la psychoanalyste, a appelé un rayonnement radioactif. Alors, il y a quelque chose qui se joue dans le mémoire, sans... Et utiliser les mots de Shoah, etc., dans une manière cynique. Bien sûr que non, mais je dis, il y a quelque chose là-bas. Mais ce que je parle ici, c'est plutôt, je dirais, c'est Anna, la narratrice, qui c'est ses propres réflexions. Ça ne veut pas dire que c'est toute l'histoire.
Oui,
Mais je crois qu'elle parle de la relation envers la génération de ce que Virginia Woolf a appelé le « angel in the house ». C'est ça, c'est la génération des mères qui ont été capables de surmonter leur propre maison, etc., etc. Alors il y a quelque chose qui, on va avec envers la régression à cause de cette culpabilité. Ça ne peut pas vraiment se séparer.
Il reste au bout du compte, enfin, Anna a dit, c'est pourquoi je me suis intéressée aux sorcières, à la sorcière fantôme qui me voit de l'intérieur. Je collabore avec elle à reculons.
Oui, c'est ça. Oui. Elle a raison. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ma propre collaboration. Ici, comme écrivaine, bien sûr, pas comme une citoyenne.
Mais quelque chose de très. c'est là où moi je vois le lien avec Kafka et avec une forme de judéité très, très non violente, mais très obscure et assez cruelle au bout du compte.
Oui, je ne pensais pas à cela parce que ce n'est pas mes sources, mais peut-être il y a des vagues, des associations que je ne maîtrise pas.
Now she's back in the game. Love is just a bitch with a burning desire. It'll drive you crazy, just one little itch. Papa Django set the house on fire. Got so goddamn hot that he couldn't resist. Love is like a snake, likes to swallow its lover. It'll suck on your bones, it'll spit you away. Shoot you up with venom, give you nothing but trouble. Better trust the witch, now she's back on the game. Better trust the witch. Better trust the witch. Better trust the witch. Keep you safe.
Merci Miral Ben-Naftali d'avoir été présente aujourd'hui. Je rappelle les titres des deux livres, Ne vois-tu pas que je brûle et l'énigme Elsa Weiss aux éditions Actes Sud.
Merci.
C'était
beaucoup.
Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann assistée de Aurélie Marseille avec à la technique Élise Leu et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.
Trust the witch, now she's back.